bien à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 3h à Paris, 1h en temps universel.
Mathis Limano.
À la une de cette édition, l'escalade au Proche-Orient qui semble inévitable. Les raids israéliens se poursuivent et s'intensifient sur le Liban. Beyrouth sous les bombes. D'abord, le QG du Hezbollah visé, c'est tout un quartier de la banlieue sud qui est parti en fumée. Plus tard, l'armée israélienne dit avoir frappé des dépôts d'armes et tué un commandant du Hezbollah. À la une également, le conflit au Soudan. Khartoum déchiré par les affrontements entre l'armée régulière et les FSR. Les télécommunications sont coupées depuis 2 jours. Nous irons en Norvège, qui cesse d'accorder l'asile automatique aux Ukrainiens. Et puis elle jette l'éponge, la joueuse de tennis française Caroline Garcia, en tout cas pour la saison 2024. Bienvenue. Toujours plus nombreux, toujours plus meurtriers. Les raids israéliens se poursuivent sur le Liban. Dans la soirée, de nouveaux bombardements ont eu lieu dans la banlieue sud de Beyrouth, visant, selon l'armée israélienne, des dépôts d'armes du Hezbollah cachés sous des bâtiments civils, ce que le Hezbollah a démenti. Pas de réaction, néanmoins, du mouvement chiite à cette annonce de l'armée israélienne, la mort dans des frappes de plusieurs commandants de la milice, dont le chef de l'unité des missiles, Mohamed Ali Ismail. Plus tôt dans la soirée, d'autres frappes ont soufflé une partie de la banlieue sud, fief du Hezbollah. Son chef, Hassan Nasrallah, était visé. Il est sain et sauf, a communiqué le mouvement pro-iranien. De son côté, le ministère de la Santé du Liban dresse ce bilan provisoire de 6 morts et 91 blessés. Juste avant ces bombardements, à la tribune des Nations Unies, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'était engagé à continuer de frapper le mouvement pro-iranien, mis en pratique directe donc, et les réactions internationales Anastasia Becchio se multiplient.
Israël et le Hezbollah libanais doivent cesser de tirer. C'est le secrétaire d'État américain qui lance cet appel. Anthony Blinken estime qu'il reste encore une chance de résoudre les choses par la voie de la diplomatie. Une guerre totale devrait être évitée au Liban, affirme pour sa part le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin. Les États-Unis, proches alliés d'Israël, disent n'avoir pas été informés à l'avance de ces frappes massives sur Beyrouth. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'alarme. L'onde de choc provoquée par la guerre à Gaza menace désormais de pousser tout le Proche-Orient dans l'abîme. Le Proche-Orient au bord d'une guerre totale met en garde le chef de la diplomatie russe qui réclame un cessez-le-feu. Nous condamnons fermement les actions de la partie israélienne qui viole de manière flagrante la souveraineté de notre pays ami le Liban, affirme Sergueï Lavrov, cité par l'agence TASS. Son homologue jordanien déclare que le chef du gouvernement israélien doit être arrêté parce qu'il conduit, selon lui, la région à une véritable guerre. Enfin, le président iranien Massoud Pezeshkian dénonce un crime de guerre flagrant et un terrorisme d'État de la part d'Israël.
L'Iran, premier soutien du Hezbollah, qui, dans la soirée, a dénoncé les menaces scandaleuses de Benjamin Netanyahou. Il n'y a aucun endroit en Iran que Israël ne peut atteindre, avait déclaré le Premier ministre à l'ONU. Plus tôt dans la soirée, l'Iran a également accusé les États-Unis de complicité dans les crimes israéliens au Liban et à Gaza, référence à l'armement à l'État hébreu par Washington. Les États-Unis, où l'ouragan Helene poursuit sa course meurtrière, des vents à plus de 220 km/h, provoquant d'importantes inondations. Au moins 33 morts, des millions d'Américains encore privés d'électricité, c'est le bilan provisoire. Les États les plus touchés sont la Caroline du Sud, la Caroline du Nord, la Floride et la Géorgie, dont la mégalopole, Atlanta, retient son souffle à l'approche de graves inondations. Voilà 2 jours que les réseaux de télécommunications sont coupés à Khartoum, la capitale soudanaise en proie à de violents affrontements. L'armée régulière mène une offensive acharnée contre les paramilitaires du FSR, les forces de soutien rapide du général Emeti. Écoutez l'inquiétude de ce professeur de français qui a dû fuir le Soudan depuis 2 jours, Hassan Ouzefa, est sans nouvelles de ses proches.
Depuis hier, personne ne sait vraiment ce qui se passe à Khartoum. Les gens disent que les bombardements de l'armée s'intensifient autour de la capitale. C'est la première fois depuis le début du conflit que nous assistons à une attaque coordonnée de l'armée contre les forces du FSR à partir des bases encore sous contrôle à Khartoum. Les milices du FSR ont lancé une contre-offensive. Ils ne visent pas vraiment les militaires, mais plutôt les civils pour les obliger à quitter les lieux sûrs et leurs maisons. L'objectif est clair, les intimider. En fait, les milices du FSR visent exprès les zones sûres. Par exemple, la ville d'Omdouran, qui était jusqu'ici un endroit sûr, est maintenant encerclée. Il y a une base militaire dans le nord d'Omdouran et maintenant les milices bombardent les zones autour de cette base. J'ai des amis et de la famille qui vivent toujours là-bas. Depuis hier, nous n'avons aucune aucune nouvelle d'eux, alors nous prions et nous espérons pour le mieux.
Des propos recueillis par Christina Okello. Le conflit au Soudan sur la table lors de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tient en ce moment. Le président Joe Biden avait dans la semaine exhorté les dirigeants du monde à arrêter d'armer les généraux à la tribune de l'ONU. L'ONU, justement, où le premier ministre somalien s'exprimait ce vendredi, Hamza Abdi Bar a accusé l'Éthiopie de violation flagrante de l'intégrité territoriale de son pays. Les tensions ont franchi un nouveau cap ces dernières semaines entre la Somalie et l'Éthiopie. Tensions sur fond de rapprochement entre Addis Abeba et la région séparatiste somalienne du Somaliland. L'Église doit avoir honte et demander pardon. Déclaration du pape François à propos des violences sexuelles sur mineurs commises par des membres du clergé belge. En visite pour 3 jours dans le plat pays, le souverain pontife a reçu ce vendredi des victimes de ces violences et a également fait part de sa tristesse dans le scandale dit des adoptions forcées. Un drame qui a touché des milliers de Belges au siècle dernier. Point d'orgue de la visite papale en Belgique, une grande messe au stade Roi Baudouin de Bruxelles où sont attendus 35 000 fidèles. En Norvège, fini l'asile politique pour les Ukrainiens. L'asile automatique, en tout cas, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement scandinave ce vendredi. Un changement significatif dans sa politique d'accueil des réfugiés. Explication signée Otilia Ferré.
En effet, dès ce vendredi, plus aucun Ukrainien ne pourra bénéficier automatiquement de l'asile. Chose à laquelle tous les réfugiés avaient droit depuis l'invasion russe en Ukraine en février 2022. Les autorités norvégiennes appelaient cela la protection collective. Mais c'est désormais terminé. À présent, les demandes seront étudiées au cas par cas, mais uniquement pour les personnes arrivant de l'ouest de l'Ukraine, jugées sûres car éloignées du front. Pour expliquer ce revirement de situation, Oslo dit avoir déjà accueilli quelque 85 000 Ukrainiens, plus que ses voisins nordiques. La ministre norvégienne de la justice a expliqué ce vendredi en conférence de presse que l'impact de cet afflux de réfugiés avait eu des conséquences sur le logement, les services de santé et les établissements scolaires dans plusieurs communes. Elle a aussi ajouté, je cite, qu'une part croissante de ces réfugiés étaient des hommes dont beaucoup sont en âge de combattre alors que l'Ukraine peine à grossir les rangs de son armée pour repousser l'offensive russe. Otilia Ferré, Stockholm, RFI.
Au Japon, on connaît le nom du nouveau Premier ministre. Shigeru Ishiba vient d'être élu chef du PLD, le parti au pouvoir, et va succéder à Fumio Kishida qui avait renoncé à se représenter. 5e tentative pour Monsieur Ishiba et cette fois, eh bien, c'est la bonne. Prise de poste prévue mardi prochain, le nouveau chef du gouvernement aura fort à faire entre les tensions avec ses voisins chinois et nord-coréens et une économie japonaise à la traîne. Du sport maintenant, ou plutôt une pause, fin de saison prématurée pour Caroline Garcia. La joueuse de tennis française a annoncé ce vendredi sur ses réseaux sociaux mettre un terme à sa saison 2024. Elle s'arrêtera donc sur son élimination en demi-finale du tournoi de Guadalajara il y a 2 semaines. Plus que sa blessure à l'épaule, c'est une lassitude psychologique qui a motivé la décision de la meilleure joueuse française. À bout de nerfs, après une année loin de ses sommets, elle veut faire le vide pour mieux revenir, Baba Cardiara.
Caroline Garcia a dit stop. À 30 ans, la joueuse veut s'éloigner de la frénésie du circuit mondial du tennis féminin, un rythme qui l'a menée à avoir, selon ses propres termes, un état d'esprit toxique. Dépressive, Garcia accumule les crises de panique, les larmes avant les matchs et des périodes d'anxiété dues à l'épuisement. Le plaisir n'y est plus et elle n'arrive pas à se détacher de ses résultats décevants. Depuis avril, Garcia a été incapable d'enchaîner 2 victoires d'affilée dans le moindre tournoi et ses échecs ont eu un effet dévastateur sur son moral au quotidien. Numéro 4 mondial en juin 2023, elle broie du noir avec une dégringolade à la 36e place du classement mondial. Face à ce constat, l'heure est venue pour elle de rentrer dans sa bulle plus d'un mois et demi avant la fin de saison. Objectif, prendre du temps de repos, se remettre les idées et l'épaule en place, puis revenir début 2025 avec dans le viseur le premier grand chelem de l'année, l'Open d'Australie.
Les explications de Babacar Diarra du service des sports de RFI. Ce journal se referme avec les résultats de la Ligue 1 de football. Le Paris Saint-Germain recevait les Rennais au Parc des Princes. Les Parisiens se sont facilement imposés 3-1 grâce à un doublé de Bradley Barcola qui devient donc le meilleur buteur de Ligue 1. Plus tôt dans la soirée, Brest s'est incliné à Auxerre sur le score de 3-0. C'est uniquement la 2e victoire dans la compétition pour les Auxerrois. Cette victoire leur permet de s'éloigner du bas du classement. Il est presque 3h10, ici à Paris, 1h10 en temps universel. À la une de nos prochaines éditions, c'est évidemment le Liban et cette situation avec Beyrouth sous les bombes israéliennes. Tout de suite, c'est Priorité Santé. Retour de l'information dans 50 minutes.